jour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Charles Pélabon à la réalisation pour nous interroger ensemble, un mois après la marche républicaine à Paris, sur les valeurs qui nous construisent, celles que nous voulons défendre et développer face à la barbarie, face à l'obscurantisme, ici comme ailleurs. Quel humanisme pour le temps présent, de quelle lumière s'inspirer en ce périlleux 21e siècle pour vivre ensemble, en bonne intelligence, avec soi-même et avec les autres. C'est du côté de la philosophie que nous allons chercher des ressources aujourd'hui, avec notre invité, le philosophe Michel Lacroix. Autour de la question qu'est l'humanisme pour le temps présent, haut les cœurs. Amis auditeurs, gardons l'esprit libre et ouvert en écoutant Paris le 11 janvier 2015 avec Monica Fantini sur RFI.
Écoutez la marche du 11 janvier 2015 à Paris. Écoutez plus d'un million de marcheurs battre les pavés parisiens pour dire non à la barbarie, non au terrorisme.
Nous, sur les corps terrestres, n'avons plus qu'à aimer ceux qui restent. Prenons-nous dans les bras, pendant que le loup n'y est pas.
Liberté ! Égalité !
Je suis, pouvoir dire et penser par moi-même, sur ces mots que s'achève votre livre, Michel Lacroix, Ma philosophie de l'homme, aux éditions Robert Laffont, un livre de conviction qui résonne étrangement avec cette marche, avec toute l'actualité de ce dernier mois.
Oui, c'est vrai, bonjour.
Bonjour
en l'écrivant, je ne pouvais pas imaginer un seul instant que des événements aussi tragiques allaient se dérouler au début du mois de janvier. Et maintenant que ce livre est écrit... Il était terminé d'ailleurs au printemps de 2014, en fait, parce qu'il faut tout le temps de la préparation d'un manuscrit et de l'édition. Ayant traversé ces semaines très douloureuses, je me dis que il y a dans ce livre à la fois une profession de foi personnel, parce que c'est un livre de témoignage sur les valeurs qui me guident, sur les valeurs qui ont un peu orienté mon existence. Je peux parler comme ça, à l'âge que j'ai atteint, parce que j'ai 68 ans, donc je peux parler un peu au passé. Et en même temps, c'est un livre de résistance dans lequel j'expose un certain nombre de valeurs qui sont peut-être, au fond, un peu, qui constituent un peu un rempart modeste, un rempart philosophique, un rempart purement idéal, si je puis dire, sur le plan des idées, contre la barbarie, contre l'obscurantisme, contre le fanatisme.
Alors, parmi tous ces remparts, il y a penser en esprit libre. Ça, c'est fondamental pour vous. C'est penser par soi-même.
Pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental, cette exigence de penser par soi-même. Cette exigence, elle est très profondément liée à la modernité. Elle a commencé en gros, je dirais, à la Renaissance. Elle a pris son plein essor au siècle des Lumières. Elle a été formalisée, explicitée, condensée dans une formule que je trouve absolument remarquable et qui devrait être écrite en lettres d'or sur le frontispice de tous nos établissements scolaires, du primaire jusqu'à l'université. C'est la phrase de Kant, « Ose te servir de ta raison », oser se servir de son propre entendement. Et tout dans notre société, à commencer par l'éducation, devrait être polarisé vers cette exigence. Il n'y a pas d'individu émancipé, il n'y a pas d'individu libre, il n'y a pas de démocratie, tout simplement, s'il n'y a pas des êtres qui sont capables de penser par eux-mêmes.
Penser par eux-mêmes, vous avez dit la raison et la liberté, c'est les deux ensemble, c'est ça, et c'est peut-être ça le plus dur, d'ailleurs.
L'un ne peut pas aller sans l'autre. Je ne peux pas développer en moi les potentialités de raisons qui sont inscrites au fond dans la nature humaine, peut-être pour des raisons d'ailleurs phylogénétiques qui renvoient à l'histoire de l'espèce humaine depuis les Australopithèques. Je ne peux pas développer en moi la faculté de raison si je ne suis pas dans un milieu de liberté, dans un cadre de liberté. Il y a que le climat de la liberté qui permet d'épanouir notre potentiel de raison. Et réciproquement, je pense qu'on ne peut pas être libre dans une société, on peut pas exercer tous ses droits et ses devoirs de citoyen, de citoyenne libre, si on n'a pas développé en soi la rationalité, si on reste inculte, si on est analphabète, les possibilités, les chances d'être libre sont amenuisées. Donc l'un ne va pas sans l'autre. La raison et la liberté sont deux valeurs, à mon avis, indissociables. Évidemment, quand on analyse les choses, il faut bien décomposer cette globalité et les analyser isolément, mais si on y réfléchit, elles sont étroitement solidaires et en quelque sorte, leur conjugaison se manifeste par la notion de libre examen. Je trouve cette formule, le libre examen.
C'est libre examen de soi-même aussi, de savoir ce qu'on pense.
Le libre examen de soi-même, mais surtout le libre examen de tout ce qui m'entoure, de tout ce qui nous est dit, de l'opinion, des croyances, des préjugés, dans le domaine scientifique, des dogmes, quels qu'ils soient, des dogmes politiques.
S'autoriser. Le libre examen de tout.
Le libre examen intégral. Buffon disait, la raison est un tribunal où tout peut être jugé. Alors, dans l'idée du jugé, il y a évidemment une idée un peu juridique qui nous fait peut-être un peu tressaillir. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce jugement ? Bon, la raison est en quelque sorte un critère, un crible, un lieu d'où je peux tout envisager. Tout, d'une certaine manière, doit être passé au crible de la raison, à commencer par ma propre existence, bien sûr.
Michel Lacroix, dans Ma philosophie de l'homme, vous citez de nombreux philosophes, Galilée, Montaigne, Spinoza, Voltaire, Rousseau, Kant, vous l'avez dit, et Descartes. J'ai envie de revenir sur Montaigne, parce que nous recevions ici même lundi un autre philosophe, Ali Ben Maclouf, professeur de philosophie arabe et de logique, auteur, lui, d'une biographie de Montaigne et d'une biographie d'Averroès, et qui nous invitait, lui, à relire ensemble tous ces philosophes, y compris les philosophes de langue arabe, oubliés, voire occultés. Écoutez son éclairage autour de la question « Quel humanisme pour le temps présent ?»
Moi, je mettrais un S. « Quels humanismes pour le temps présent ?» C'est-à-dire de prendre l'humanisme confucéen, ça se travaille beaucoup en ce moment, l'humanisme arabo-musulman, l'humanisme judaïque, et essayer de voir comment les cultures, sans être prises dans leur aspect singulier, se sont toutes arrimées à l'échelle humaine. C'est ça, finalement, l'humanisme. C'est comment une culture accède à une dimension humaine et sorte complètement de son propre cloisonnement. Comment chaque culture est ouverte et non pas fermée. Et la langue que l'UNESCO a considérée dans sa convention comme quelque chose à protéger, c'est les cultures, la convention sur la diversité culturelle. C'est pas une convention pour reconnaître une égale dignité des cultures et casser l'universel ou un humanisme général. Au contraire, c'est juste donner de la vie et pas simplement de la survie aux langues, parce que les langues font précisément ces cultures. Et on revient à l'enjeu de la traduction. Donc moi, je mettrais un pluriel à quel humanisme, et je dirais justement ces humanismes vont communiquer sur la base d'une traduction.
Des humanismes qui pourraient communiquer sur la base d'une traduction. Vous voulez réagir à cet éclairage, Michel Lacroix ?
Oui, il y a quelque chose de très sympathique dans ce que dit Aline Ben Maclouf, mais en même temps, je ne vous cache pas que je tique un tout petit peu. Mmh. Quand le mot humanisme est pris au pluriel, quelque chose me gêne. Pour moi, l'humanisme est un. Il y a une idée de l'homme. Il y a le genre humain est radicalement, irrévocablement unique. Et l'humanisme, c'est au fond l'ensemble des valeurs qui vont permettre à cette unicité de se développer. Et cette unicité, elle est visible au travers de justement de l'exigence de rationalité et de liberté, qui est la même pour toutes les aires de civilisation. Alors, oui, il y a une diversité des cultures, mais cette diversité des cultures, à mon avis, elle s'efface lorsque ces cultures accèdent au palier de l'humanisme universaliste. Donc je suis sur une position un tout petit peu différente de celle qui vient d'être présentée.
Vous vous parlez de dialogue en fait, mais de dialogue pour un même humanisme, c'est ça que vous...
Pour moi, absolument, dans chacune des ères civilisationnelles que je ne veux en aucun cas essentialiser et considérer comme irrévocablement différente, c'est la thèse de Huntington, je m'élève alors vraiment
le choc
avec
civilisation, force vous n'êtes pas d'accord
contre
là-dessus,
l'idée, hein. Contre l'idée de quelque chose d'insoluble, en quelque sorte de non miscible entre les différentes aires civilisationnelles. La non-miscibilité ou le non-mélange, il intervient lorsque ces cultures se raidissent dans leur identitarisme, si je puis dire, lorsque on veut exacerber notre particularisme culturel. Mais si on fait l'effort de s'élever vers l'humanisme, à mon avis, l'humanisme est un et il se confond avec l'universalisme. Alors, à charge pour toutes les cultures, finalement, de s'ouvrir à cette dimension universaliste de la rationalité. Alors, quand vous me présentez Ben McClough comme ayant fait un livre sur Montaigne et sur Averroès, mais c'est un très beau témoignage justement de cet effort pour transcender en quelque sorte les différences culturelles et les faire se rejoindre dans le domaine de la rationalité, parce que Averroès, il est à mes yeux le symbole même de la rationalité au cœur de la pensée arabe.
Autour de la question quel humanisme pour le temps présent, je vous propose d'écouter Cat Power sur RFI. La chanson s'appelle Human Being, être humain, tout simplement. Sur RFI. Autour de la question quel humanisme pour le temps présent, un mois après la marche républicaine à Paris, nous nous interrogeons avec le philosophe Michel Lacroix qui vient de publier Ma philosophie de l'homme. Je vous propose un nouvel éclairage, c'est celui de Mila Douéhi, historien des religions, reconverti, si j'ose dire, dans le numérique aujourd'hui, titulaire de la chaire d'humanisme numérique à la Sorbonne.
Il me semble qu'on est confronté à quelque chose qui est de l'ordre du religieux, à des formes de croyances qu'on peut appeler radicales ou autres, qui appellent, non pas peut-être nécessairement à la tolérance, mais à une manière de réinventer quelque chose que la tolérance a joué dans notre histoire, que ça soit au XVIIIe siècle ou dans d'autres périodes. Parce que combattre, c'est peut-être important et c'est parfois inévitable, mais c'est pas suffisant. Une tolérance qui est appropriée, qui correspond aux conditions qu'on a aujourd'hui, qui en même temps ne nie pas le fait de la croyance, mais non pas dans ses aspects problématiques, et qui peut accueillir des formes de dialogue. C'est pas facile. La tolérance a commencé avec des formes d'autonomie qui étaient extrêmement difficiles d'accepter dans nos sociétés à la fin du XVIIIe siècle. On est aujourd'hui dans des sociétés plus complexes, plus hybrides. Et du coup, on a besoin, non pas nécessairement d'utiliser le mot tolérance, mais quelque chose d'équivalent qui va nous permettre de redéfinir le lien social.
Inventer quelque chose d'équivalent, de l'ordre de la tolérance, ce serait une piste, Michel Lacroix, pour vous.
Réinventer la tolérance. Là encore, je trouve que c'est la tolérance telle qu'elle a été définie après les guerres de religion au XVIe siècle, c'est une valeur qui me paraît qu'il faut pas se hâter de jeter par-dessus bord. Elle est quand même très précieuse. C'est elle qui nous a permis de mettre un terme aux guerres de religion. C'est parce que nous avons subi le traumatisme des guerres de religion entre catholiques et protestants en l'occurrence que nous avons forgé ce concept de tolérance avec Locke, avec les encyclopédistes, avec les philosophes des Lumières. Je ne sais pas s'il faut réinventer, mais il faut éclairer le concept. Tolérance ne veut pas dire forcément s'abstenir de discuter des croyances des autres. Je revendique au contraire, au nom de ce fameux libre examen dont on parlait tout à l'heure, je revendique le droit de discuter des croyances que professent la plupart des religions dans la société actuelle et dans le monde d'ailleurs en général.
Mais il ne faut rien s'interdire de discuter ou de mettre en question.
Absolument. À partir du moment où on me dit « Ah mais ça, vous n'avez pas le droit de discuter, vous n'avez même pas le droit d'en parler parce que c'est tellement sacré, c'est sous une cloche de vert, c'est sur un piédestal et toute analyse critique des croyances, des pratiques religieuses vous fait basculer rapidement dans quelque chose d'intolérant, de blasphématoire. Non.
Vous dites que c'est pas ça la tolérance, c'est pas de tout tolérer.
Non, absolument. Moi, je pense que le concept essentiel, c'est le concept de liberté de conscience. C'est laisser les individus. D'ailleurs, c'est le concept de liberté de conscience qui est dans notre Constitution. Le mot de tolérance, autant que je sache, il ne figure pas dans le préambule de la Constitution de la Ve République. Il n'est pas présent. Pourquoi ? Parce que le concept opératoire, c'est celui de liberté de conscience. C'est-à-dire, vous êtes libre, dans l'espace privé, laïcité, de professer la religion que vous voulez. Cette religion, vous ne devez pas la mettre en avant de façon ostentatoire, de façon encore moins agressive. Vous pouvez faire du prosélytisme, il faut que ce prosélytisme soit discret, et en tout état de cause, vous devez respecter l'existence d'autres religions vivant simultanément sur le même territoire. Vous devez accepter que certaines personnes n'aient pas de religion. Vous devez accepter l'idée que ceux qui professent une religion peuvent très bien du jour au lendemain dire non, moi je suis catholique, je demande qu'on efface de l'acte de baptême du village où j'ai été baptisé en 1946, l'état en quelque sorte attestant que j'ai été sur les fonds baptismaux, je demande à effacer ça.
On a le droit de changer.
J'ai le droit.
C'est vraiment la liberté de chacun.
C'est fondamental. C'est fondamental.
Le droit de dire je n'appartiens plus, je ne veux plus appartenir à ça.
Le droit de dire du jour au lendemain. Alors certains appellent ça le droit à l'apostasie, mais il n'y a pas besoin d'utiliser le mot apostasie puisque nous avons le mot beaucoup plus riche de liberté de conscience.
Liberté de conscience. Autour de la question, quel humanisme pour le temps présent ? Voilà une belle piste. Nous allons continuer à en chercher d'autres pour aujourd'hui et pour demain. Avec vous, Michel Lacroix, suite dans 3 minutes. Juste après le flash d'info, on se retrouve en auditeur libre de conscience et ouvert d'esprit. A tout de suite.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question « Quel humanisme pour le temps présent ?» Un mois jour pour jour après la marche républicaine, nous nous interrogeons avec notre invité, le philosophe Michel Lacroix, qui nous fait partager sa philosophie de l'homme, titre de son dernier essai, paru aux éditions Robert Laffont. Comment vivre ensemble, en bonne intelligence? Comment cultiver notre liberté de conscience? Toutes les pistes sont bienvenues. Écoutez celle de l'archéologue Pascal Depape, qui était récemment notre invité.
Plus j'en sais, moins j'en sais en fait sur ce qui est le fond de notre humanité. Et plus je me dis que moins j'en sais, et plus cela m'incite à me diriger vers les autres, entre guillemets, pour essayer de comprendre ce qu'ils ont eux, et plus ça m'incite à respecter l'autre en tant qu'individu, et non plus en tant que fourmi dans une masse de 7 milliards de personnes. Quand je vois les trésors d'intelligence, d'imagination qu'il a fallu avoir depuis des dizaines de milliers d'années pour arriver à survivre sur cette terre, je me dis qu'on doit faire en sorte de continuer cette grande course de l'humanité vers ce qu'on espère tous. Je ne dirais pas le progrès, je ne sais pas si ça signifie encore quelque chose, mais en tout cas vers, disons, un bonheur qu'on peut essayer de partager les uns avec les autres.
Partager les uns avec les autres, vers les autres, que vous inspire cet éclairage, Michel Lacroix?
C'est absolument indispensable. Surtout dans le monde dans lequel nous entrons, au 21e siècle, on sent bien que... Je ne dis pas qu'il y a un épuisement du libéralisme ou de l'individualisme. Je suis attaché à l'individualisme, c'est-à-dire à l'épanouissement de l'être humain en tant que personne, en tant qu'individu. Mais l'ouverture aux autres est absolument essentielle. La valeur de l'altruisme est une valeur capitale à apprendre dans le cadre éducatif. Peut-être qu'on le fait d'ailleurs pas suffisamment, parce qu'on sait très bien qu'au 21e siècle, la société humaine ne pourra survivre que si elle compense les excès d'un individualisme débridé, si elle n'arrive pas à compenser ces excès par des valeurs de partage, des valeurs d'empathie, des valeurs de bienveillance. C'est caractéristique d'ailleurs de voir que depuis quelques années, ces valeurs ont le vent en poupe. Empathie, solidarité, partage, esprit collaboratif, c'est à ce prix que l'espèce humaine continuera dans la voie du progrès. Pour ma part, je n'hésite pas
à
employer ce mot de progrès. Mm-hmm. Je n'hésite pas. Cette notion qui est née au XVIIIe siècle garde toute sa valeur. Elle
mais,
doit
mais
d'ailleurs.
Mais qu'est-ce qu'on entend par progrès? Parce qu'au fond, on a l'impression que c'est un progrès économique qui n'apporte pas le
pas
bonheur,
seulement.
Mot
bien
par
sûr,
lequel.
Bien sûr, c'est pas. Ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être qu'un progrès matériel. Pour moi, la notion de progrès, c'est faire en sorte que le plus grand nombre possible d'enfants, de jeunes adultes puissent épanouir leur potentiel de rationalité et de liberté. Je reviens à ces deux notions fondamentales. Ma vision du progrès, elle est presque quantitative. Plus il y a dans l'ensemble des sociétés humaines d'individus qui, au terme du cursus scolaire qu'ils ont accompli, ont pu développer la connaissance, d'une part, et d'autre part, leur esprit de citoyenneté libre. Hein, autrement dit, plus il y a d'individus qui ont développé leur potentiel de raison et de liberté, plus nous allons vers le progrès. Le progrès, c'est ça. Le progrès ne peut pas être simplement matériel. Il peut pas se mesurer uniquement d'après des indicateurs de croissance. Pour moi, cet aspect est secondaire. Et ce qui est prioritaire, c'est ça. Et par conséquent, ce qui est fondamental pour donner un critère du progrès, pour le mesurer à l'aune de quelque chose de tangible, c'est l'éducation. L'éducation, c'est la clé du progrès. Et plus les individus dans le monde recevront une éducation émancipatrice...
Une éducation émancipatrice. Alors, il faut quand même noter que l'éducation, c'est ce contre quoi luttent tous les obscurantistes, que ce soit au Nigeria,
ben voilà.
Que ce soit au Mali, que ce soit à Paris. C'est vraiment contre la liberté d'expression et contre l'éducation. Mais vous dites aussi une éducation émancipatrice,
c'est-à-dire
qui apprenne à penser par soi-même.
Bien
on
sûr.
Y revient.
Bien sûr, parce que si c'est une éducation... Il y a des styles d'éducation différents. Il y a des styles d'éducation autoritaire, despotique, tyranniques, capricieuses, inconstantes, dogmatiques, qui en fait tarissent le potentiel de raison et de liberté de l'être humain. Et il y a des styles d'éducation que j'appellerais démocratiques, en reprenant une distinction d'ailleurs qui est assez classique, qui a été mise au jour dans les années 1950 et 1960, notamment dans le fameux livre écrit à la suite de la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelait The Authoritarian Personality, la personnalité autoritaire, livre dans lequel les auteurs américains, issus de l'école de Francfort, montraient que il y a des éducations qui font basculer les individus vers l'autoritarisme, le fascisme, le nazisme, sous toutes ces formes, des formes qui peuvent être des avatars modernes, qui peuvent être, au fond, qui soutiennent la comparaison avec le nazisme, hélas, et il y a des formes d'éducation émancipatrice, qui fabrique en quelque sorte des hommes et des femmes libres. Eh bien, c'est évidemment cette éducation-là que je revendique. C'est-à-dire une éducation fondée sur une discipline consentie, une pédagogie qui explique la règle au lieu de l'imposer de façon impersonnelle, froide, dogmatique, et une pédagogie qui éveille l'esprit au lieu de le maintenir dans l'obscurantisme. Si ces conditions sont réunies, l'éducation est émancipatrice et elle est la fabrique de l'homme démocratique.
Voilà pourquoi aussi, Michel Lacroix, vous parlez beaucoup des scientifiques et de la recherche aussi dans votre position de philosophe. Vous dites que il faut maintenir cet esprit de science, de recherche, de doute, de remise en question perpétuelle aussi.
Alors, de remise en question, bien sûr. Ben justement, lorsque vous avez une théorie scientifique qui se fige et qui se barricade derrière le dogmatisme, en excluant, au fond, la discordance, en excluant les avis opposés, en excluant les francs-tireurs, en quelque sorte, qui chassent, si je puis dire, le gibier de la vérité scientifique sur des terres qui ne sont pas académiquement reconnus. Là, il y a danger. Il y a danger d'une sclérose, en quelque sorte, du savoir scientifique.
Le danger est un peu partout, quand même. C'est fragile,
le danger est partout.
Ça, hein.
Je pense que la science, de tout temps, elle doit se défendre contre cette tentation de se scléroser. Vous savez que... Vous savez qu'à la fin du 19e siècle, il y a un fameux physicien, dont le nom m'échappe présentement, qui était d'inspiration newtonienne, donc nourri de la physique newtonienne, et qui n'hésite pas à dire dans un traité de physique, connu un très grand succès à l'époque, il dit « On peut considérer que la physique, maintenant, a mis un point terminal au savoir. » Exactement. Et 5 ans après, vous avez, en 1905, vous avez le coup de tonnerre d'Einstein et de la relativité. Comme quoi, la science doit rester en permanence en éveil et savoir se remettre en question.
Autour de la question « Quel humanisme pour le temps présent ?», je propose justement un nouvel éclairage, celui d'une éminente scientifique, l'astrophysicienne Françoise Combes, professeure au Collège de France. Elle est titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie. Cette chercheuse est en quête de la mystérieuse matière noire, et justement elle ne s'accroche à aucun dogme, elle est prête pour cela à tout remettre en question, jusqu'aux lois même fondamentales de la physique. On écoute cet esprit libre et en recherche.
Aujourd'hui on a peut-être de l'intolérance et des esprits un petit peu étriqués qui se manifestent. Je pense qu'il faut avoir un esprit très très large, et justement les scientifiques ont le devoir d'avoir cet esprit-là, c'est-à-dire aucune idée et aucune pensée et aucune foi n'est mauvaise. Il faut absolument les accepter toutes, et puis après on les teste. Il y en a quand même peut-être des idées, pour nous en tout cas, des idées qui sont meilleures que d'autres, mais à chaque fois il faut remettre notre ouvrage sur le tapis et puis le retester, et puis avoir aussi un consensus. C'est-à-dire on a toujours des colloques où tout le monde est d'accord. On voit bien que, par exemple, la matière noire, pour prendre notre sujet ici, elle a été émise par certaines personnes, mais la communauté ne l'avait pas acceptée. C'est lorsque la communauté l'a acceptée que ça commence à être fort. Et donc, il faut qu'il y ait un consensus, il faut qu'on arrive à convaincre tout le monde. Si on n'arrive pas à convaincre tout le monde, ça veut dire qu'il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas, peut-être. Il faut surtout se méfier des idées où tout le monde va alors que ça n'a pas été prouvé. Donc, s'il y a toujours même 10% de la communauté qui n'est pas d'accord, c'est que sans doute ça résiste. Et lorsqu'il y a un consensus, ça veut dire que le fait est établi. On avait dit que c'est établi. Donc, l'existence de matière noire est établie. Maintenant, à nous de savoir s'il faut changer la physique pour la résoudre.
Prête à changer la physique, Françoise Combes, pour pouvoir résoudre cette énigme de la matière noire. Il ne faut pas qu'il y ait de dogme, finalement, nulle part.
Non, c'est pourquoi le propos de Françoise Combes est un tout petit peu ambigu, parce qu'elle plaide pour le consensus.
Pour que tout le monde soit d'accord.
Mais si j'ai bien compris, elle plaide aussi pour le dissensus. Elle nous dit, si j'ai bien compris le message que je découvre en même temps que vous en direct, j'ai l'impression qu'elle nous dit deux choses un tout petit peu contradictoires, ce qui montre que le progrès scientifique, c'est la corde raide. C'est la corde raide entre la recherche de l'accord de tous les esprits, éveillés, instruits, bien formés, en physique, en astronomie, en astrophysique en l'occurrence, et aussi l'ouverture au dissensus, hein, à la dissonance, à la discordance mentale. Elle nous dit les deux choses. Et au fond, la science, elle vit comme ça, de la pulsation, de cette espèce de... en quelque sorte, de cette... ce rassemblement des esprits autour d'une vérité qui à un moment donné est bien établie, et pour progresser il faut quand même qu'il y ait le fer de l'anticonformisme à un moment donné
qui vienne se
planter, mais il faut que cet anticonformisme scientifique il soit étayé sur de la connaissance, et c'est là le danger, c'est que il y a de nos jours beaucoup de gens qui s'intéressent à la science, mais qui n'ont pas de formation scientifique. Dans mon jeune temps, j'ai beaucoup travaillé sur le mouvement du New Age. Et quand je travaillais sur le New Age dans les années 80, je rencontrais beaucoup de gens qui se passionnaient pour le thème du Big Bang, l'apparition de la vie sur la Terre, le spin de l'électron, les radiations, le rapport entre l'énergie et la matière. Ils se passionnaient pour ça et ils élaboraient de façon un peu facile et de façon subjective, arbitraire, pas suffisamment étayé sur des preuves ou sur, comment dirais-je, une logique scientifique, ils élaboraient un discours, au fond, qui ressemblait à de la science, mais qui n'en était pas vraiment. Donc, il ne faut pas que le dissensus, en quelque sorte, qui est nécessaire au progrès de la science, soit dicté par une pure subjectivité impressionniste, en quelque sorte, et imaginative. C'est très difficile de faire progresser la science, pour le dire en termes simples.
Et c'est très difficile de faire progresser des connaissances, et on a quand même l'impression que, oui, c'est constamment sur le fil quand même, entre effectivement une liberté de pensée, mais qui doit s'appuyer sur des connaissances, oser tout remettre en question, ne pas se définir uniquement par ce que l'on croit, mais finalement quoi, oser remettre en question à chaque fois aussi ce que l'on croit.
Et oser, effectivement, et vous employez le verbe oser, et le verbe oser, il fait penser à la notion de courage. Je pense que pour faire de la science, il faut un certain courage intellectuel, c'est-à-dire le courage de sortir des sentiers battus, avec
de pas penser comme tout le monde,
le courage de pas penser comme tout le monde, mais néanmoins d'avoir fait le détour par de longues études. C'est bien joli de dire je vais penser le noyau atomique différemment des autres. Oui, mais attendez, au préalable, il faut que j'ai fait mes 10 ans d'études de physique théorique, de physique nucléaire. Sinon c'est du vent et je vais brasser des idées au fond un peu inconsistantes. Donc il faut à la fois l'effort, la persévérance. Il faut un double courage. Il faut la persévérance de celui qui se lance dans de longues études, des études difficiles. Être un chercheur, ça suppose d'être allé très loin dans la connaissance physique, en l'occurrence. Et en même temps, il faut avoir le courage de s'évader de ce qu'on a appris, c'est-à-dire de le contester. Ce double courage, c'est le courage du chercheur. Et moi, je suis très admiratif quand je vois des chercheurs, justement, qui ont réussi à bousculer les paradigmes, qui ont fait avancer la science, qui ont remis en question des idées reçues et qui permettent à la science d'aller de l'avant et qui sont parfois mis au banc au départ et puis peu à peu leurs idées gagnent du terrain. C'est exaltant.
Ce sont des grands esprits pour vous et des esprits libres justement, qui ont à la fois éduqué, cultivé leur esprit et qui sont prêt ensuite à lâcher tout un tas de certitudes.
Ouais, il y a une morale sous-jacente d'ailleurs derrière ça. Il y a une morale scientifique finalement. Le progrès de la science, c'est un peu le modèle du progrès en général, si vous voulez, d'accumuler les connaissances, parce que le progrès scientifique, il est cumulatif, hein, ce qu'on a découvert de vrai au XVIIIe siècle reste vrai, hein. Bon, la loi de Newton, elle reste vraie dans son secteur, si je puis dire, hein, l'attraction terrestre, elle reste vraie. Après, elle est remise en cause par la théorie d'Einstein, mais la théorie d'Einstein, c'était en quelque sorte une structure englobante qui va plus loin. Donc, si vous voulez, le progrès de la science, il est à la fois cumulatif et en même temps, il est marqué de disruptions, il est marqué de phénomènes en quelque sorte sismiques réguliers. C'est cette dualité qui est passionnante pour l'historien des sciences.
Sur RFI, autour de la question « Quel humanisme pour le temps présent ?», on écoute Fire, c'est du feu, la Nigériane, Ayo et Youssoupha.
Et la foule fait ce qu'elle veut, elle est là pour faire face, elle vient pas foutre le feu. Elle vient déclarer sa flamme, fire.
Is anybody listening? The city's on fire. The town is burning down. But there's no water. Ta, ta, ta. 8 million citizens, nobody's really listening. Nobody's really watching. 8 million ignorant. 80,000 teachers, way too many preachers. A thousands of leaders, but nobody leads us. 3 million beggars, 4 million pleasers. We are the world, but they don't really need us. Ghetto got no funds, ghetto ain't no fun. Ghetto kids got guns, ghetto got no one. Ghetto got no funds, ghetto ain't no fun. Ghetto kids got guns, cause they got no one.
One love pour mes soldats, one love pour mes petites sœurs. Prise en otage avec une bombe à la place du cœur. C'est ça même.
Is anybody listening? The city's on fire. The town is burning down. But there's no water. Is anybody listening? The city's on fire.
Fire.
The town is burning down.
Yeah.
But there's no water.
On m'a appris à haïr, mais je vous aime quand même. On m'a appris à trahir, mais je vous relève quand même. Je ne suis pas venu seul, viens ma sœur que je t'emmène. Je n'ai que ma grande gueule, pas de gun, que des emmerdes. Viens que je t'emmène, viens que je t'enlève. Viens que je te sauve, que je te cause, que je t'engraine. Graine de colère, mon ghetto est sous pression. Jour de tonnerre, peu de réponses, trop de questions. Nous terre par l'oppression, qu'on tombe de sommeil. Comment nous faire de l'ombre, on est les enfants du soleil. Viens, viens, on reste dur, que notre bruit dure quand même. Même entre les murs, qu'on se murmure quand même. Viens, viens, on brûle le mic, putain, parce que Marie m'est on fire. Ma vie est on fire, ma ville est on fire. Grève, guerre des nerfs, des merdes, vénère, brailleur. Crabe, besoin d'air, j'émerge, besoin d'ailleurs. Donc, je me répète, Marie m'est on fire. Ma vie est on fire, ma ville est on fire. Qui pourra nous comprendre, besoin d'un traducteur. L'amour en cendre avec une bombe à la place du cœur. C'est ça, man.
Is anybody listening? The city's on fire.
Ma ville est on fire.
The town is burning down. But there's no
On Fire, la Nigériane Ayo et le Français Youssoupha sur RFI autour de la question « Quel humanisme pour le temps présent, ici comme ailleurs ?» Nous cherchons ensemble, en auditeurs libres et curieux des pistes, écoutez celles que nous propose le prospectiviste spécialiste des enjeux du numérique, Jean-François Marchandise, qui co-dirige la nouvelle chaire du Collège des Bernardins, « L'humain au défi du numérique ».
On a une difficulté sur le chemin avec la question du vivre ensemble et de la communauté. Et en fait, la difficulté, c'est que on peut plus se contenter d'opposer universalisme et communautarisme. C'est des clés qui deviennent insuffisantes. Et notamment, comme le mot communauté est un mot très explosif à manier, c'est celui que j'ai envie d'interroger de plus près en disant comment est-ce qu'on arrive à départager communauté ouverte de communauté fermée. Comment est-ce qu'on arrive à penser les formes collectives qui émergent et qui, bon, depuis les champs numériques d'où je parle, s'appellent facilement communauté. Comment est-ce qu'on arrive à départager ces formes ouvertes de formes qui sont au contraire des formes prescriptives, enfermantes, du repli. Comment est-ce qu'avec le même nom, on peut avoir des choses aussi différentes les unes des autres outiller la construction, l'évolution de ces communautés, sachant que le collectif est très souvent, et le collaboratif et le participatif sont très souvent mythifiés et intégrés comme des horizons formidables, et que nous savons bien qu'une des formes collectives les plus répandues et robustes de notre société, c'est l'assemblée de copropriétaires, qui n'est pas forcément le modèle de construction humaine qui nous fait tous rêver. Donc, il y en a certainement d'autres, on en connaît d'autres dans les champs numériques, et c'est des nouvelles propositions du vivre ensemble qui sont pas encore tout à fait mûr, on va dire, sur lequel ça serait intéressant de parier quand même.
Sur quelle forme de communauté pourrait-on parier, Michel Lacroix ? Parce qu'effectivement, l'assemblée de copropriétaires, ça ne fait pas vraiment rêver. Les communautés du monde numérique, c'est peut-être des pistes, mais la question du communautarisme,
c'est
elle revient aujourd'hui,
brûlante.
C'est une question
terrible. C'est une question brûlante. Et l'auteur que vous avez fait entendre à l'instant dit, semble dire que l'opposition entre communautarisme et universalisme est une opposition caduque, désuète. Je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que cette opposition, elle est plus actuelle que jamais, plus brûlante que jamais.
Face à la montée des communautarismes.
Mais bien sûr, justement. Face à la montée, et en particulier des communautarismes ethnoculturels, culturels si vous voulez. Pour moi, je serais presque tenté de prendre le contre-pied de ce qu'il a dit, en laissant de côté les communautés du net, hein, les communautés numériques, que, après tout, je ne connais pas très bien. Je sais pas trop comment ça se passe et si elles sont stables ou flottantes. Voilà, je saurais pas. Par contre, les communautés culturelles, elles sont des ensembles, des globalités en quelque sorte, des holos pour parler la langue grecque, c'est-à-dire des groupes holistiques qui représentent alors à la fois pour l'individu un moyen de donner du sens à sa vie. Je me revendique de ma communauté, je suis ceci, je suis cela, et la personne semble comme ça exister et requérir en quelque sorte le respect des autres. Mais en même temps, le revers de la médaille, c'est que les communautés, et je trouve que c'est un problème qu'on ne souligne pas suffisamment quand on parle des communautés, les communautés peuvent exercer une pression sur l'individu.
Elles enferment en fait l'individu.
Il y a quelque chose qui est de l'enfermement, il y a quelque chose qui est de ce qu'on appelle la pression sociale, la pression du groupe. Les psychosociologues ont très bien étudié ces phénomènes de pression du groupe. Vous savez, au sein d'une communauté, une espèce de censure qui interdit aux membres de la communauté, entre parenthèses, souvent d'ailleurs la femme, qui me paraît être souvent la grande perdante de la vie communautaire, vous avez des pressions qui s'exercent sur les membres de la communauté, qui les empêchent de faire ceci ou cela, qui les empêchent de s'évader de la communauté, de changer.
Parce que vous, ce que vous nous invitez à faire, en tout cas, ça serait en tout cas d'avoir la possibilité ou le choix de s'évader de sa communauté d'origine, qu'elle soit religieuse, nationale, qu'en fait, voilà, un esprit libre,
mettons,
il doit pouvoir partir de sa liberté, communauté.
Absolument. Disons les choses clairement. Au 19e siècle, l'idée de nation, là, je parle de la nation globale, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc., a réussi à s'évader du schéma de la nation ethnie, c'est-à-dire holistique, globalisante, enfermante, traditionnaliste, héréditaire, biologique, raciale quasiment, pour pénétrer sur les hauts plateaux de la nation contrat. Et la grande victoire, finalement, de Renan, de Fustel, de Coulanges et des philosophes de la Troisième République, ça a été de prôner la nation contrat. On est dans une nation par le jeu du consentement, du contrat, de la libre adhésion de l'individu. Je suis libre de devenir français et tous les jours, en quelque sorte, je peux dire oui, je réaffirme mon appartenance à la France, mais c'est en toute liberté, c'est en pleine propriété, en quelque sorte, de mon choix, de mon vouloir.
Et vous voulez qu'on puisse faire la même chose
exactement,
par rapport à sa communauté d'origine.
Ce que je prône, moi, dans la vie communautaire actuelle, qui est en train de prendre des formes que je trouve inquiétantes, en particulier au sein de la société française, c'est que on évolue de la communauté globalisante, holistique, traditionnelle, enfermante, parfois emprisonnante, vers une forme de communauté que j'appellerais la communauté contractuelle, c'est-à-dire la communauté contrat. L'individu, l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune fille, sont libres à tout moment, devraient être reconnus, pourquoi pas par la loi, libres de quitter leur communauté sans que des pressions s'exercent sur eux. Et il me semble que ça changerait complètement l'appartenance communautaire, le fait d'y introduire en quelque sorte cette dimension de liberté, de libre du jugement, de libre examen, de libre choix, autrement dit d'individualisme éclairé et d'émancipation.
Individualisme éclairé, le libre choix, on en revient à l'esprit, hein. Être un esprit libre, ça se cultive. Et c'est pas si simple, et non. C'est toujours pas simple au XXIe siècle.
Non, non. Alors, vous allez dire que c'est mon obsession. Oui, d'une certaine manière, c'est le sens même de mon existence. J'ai été enseignant toute ma vie. L'idée de rendre les élèves que j'avais étudiants ensuite dans une deuxième partie de mon existence, puisque j'ai enseigné pendant longtemps en université, cette idée-là m'a toujours guidé. Faire des individus qui sont en face de moi des êtres pleinement libres,
c'est-à-dire qui ont le choix,
maîtres de leur vie, capables de s'auto-déterminer, c'est-à-dire capables de cette véritable autonomie, ne pas dépendre des autres, certes, bien sûr, être dans le partage, bien sûr, la bienveillance, l'empathie, la solidarité, ces valeurs sont essentielles, mais que le choix de ma vie, mon projet de vie, je puisse le décider librement.
Merci Michel Lacroix d'être venu en direct nous faire partager cette liberté-là, ma philosophie de l'homme, à lire pour s'en inspirer, vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Merci à vous.
Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, les hommes et femmes libres que nous sommes s'intéresseront aux grands singes. Sur la piste des grands singes, autour d'une très belle exposition qui vient juste d'ouvrir au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, nous recevrons la primatologue Sabrina Krief et l'anthropologue Serge Bahuchet. À demain donc, avec Charles Pélabon à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, amis auditeurs et internautes, portez-vous bien, restez curieux et surtout gardez l'esprit libre et ouvert. Je vous fais confiance. Merci de votre fidélité et de votre interactivité. Dans quelques instants, une poignée de secondes, un nouveau journal sur RFI.